Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonsoir, bonne année. Premier mardi politique de l'année 2015 avec une rentrée offensive pour François Hollande, une rentrée littéraire aussi où il est beaucoup question de politique et d'islam. Quand le Front National de son côté soutient la gauche radicale en Grèce. Bonsoir Éric Coquerel.
Bonsoir.
Vous êtes l'un des représentants du Front de Gauche, le coordinateur du Parti de Gauche, bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Que faut-il vous souhaiter d'abord pour 2015 ?
Ben vous venez de parler de la Grèce, donc il est possible que les chaînes de l'austérité rompent en Grèce. Et bien je souhaite une contagion vers la France. Et puis aussi, peut-être qu'on arrive à perturber le côté un peu train-train et communication autour de la conférence climat de fin d'année pour en faire une vraie bataille sur la question du climat.
Du climat et de la Grèce, surtout, on va en parler dans quelques minutes. Bienvenue dans Mardi Politique, bienvenue aussi à Roselyne Fèvre de France 24.
Bonsoir Florent.
Et à Lilian Alemania de Libération, bonsoir.
Bonsoir.
La rentrée politique, c'est d'abord la rentrée de François Hollande, hein, omniprésent depuis ses vœux aux Français le 31 janvier. Hier, il était à la radio pendant 2 heures sur France Inter pour justifier une fois encore sa ligne politique, son chemin.
Il y a toujours plusieurs chemins. Il n'y a jamais une politique et une seule qui pourrait être définie, quelles que soient les majorités, heureusement. Est-ce que j'ai pris le bon chemin ? Nous le verrons à la fin. Parce que un chemin, c'est là où il conduit. Et je fais tout pour que la France soit plus forte et plus juste à la fin de mon quinquennat. Est-ce que c'est un chemin de gauche ? C'est un chemin qui fait en sorte que nous puissions donner autant de force qu'il soit possible à notre économie, sans mettre en cause les valeurs républicaines et le modèle social.
Voilà, le bout du chemin, c'est 2017, la prochaine présidentielle pour François Hollande. Est-ce qu'il prépare sa réélection comme l'Élysée le laisse entendre assez clairement maintenant?
Oh, malheureusement, oui, je le pense, parce que c'est un peu dans les gènes de la Ve République, où on a un côté très monarchie présidentielle que nous contestons. Et là, François Hollande vient totalement de s'inscrire dans cette tradition, avec quand même, à mon avis, un record. Hein, parce que je pense que j'ai pas souvenir qu'un président de la République ait autant monopolisé la parole depuis quelque temps pour ne rien annoncer de nouveau. Voilà. Tout le monde se demandait ce qu'il allait dire au niveau de ses vœux. 2 heures à France Inter, pas une seule annonce nouvelle. La seule chose qu'il fait, c'est « j'ai échoué », il le dit. Et comme j'ai échoué,
échoué sur le chômage.
Voilà. Et comme j'ai échoué, je continue la même politique. Voilà, c'est le scoop de ce début d'année.
Alors c'est du courage, de l'entêtement ? Parce que lui, il y croit, à sa politique.
Bah, écoutez, en tout cas, manifestement, il pense que la main invisible du marché va résoudre à un moment donné le problème. C'est ça, puisque c'est pas sa politique. La politique qu'il utilise, c'est celle qu'on voit depuis quelques années dans ce pays. C'est une politique de l'offre qui sévit depuis 20 ans avec les mêmes résultats. Hein. Je donne un exemple. CICE, pacte de responsabilité, 40 milliards en moins d'exonération. On en est déjà, avant même le début de ces mesures, à 27,6 milliards. Et ça n'a pas créé un seul emploi. Ça fait monter les dividendes. Donc, il continue la même chose, et à mon avis, avec le même résultat. Non, je pense qu'il espère qu'il va y avoir une reprise internationale, et qu'à un moment donné, ça va toucher la France, et que ça va le sortir du guépier dans lequel il est.
Une question de Lilian Alemania, de Libération.
Au final, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir appelé à voter François Hollande en 2012 ?
On n'a pas appelé à voter François Hollande. Vous
étiez avez appelé à battre Nicolas Sarkozy.
Voilà, vous étiez à Stalingrad, vous aviez entendu, on a appelé à battre Nicolas Sarkozy. Il fallait battre Nicolas Sarkozy, ne serait-ce que justement pour peut-être lever les hypothèques. Notamment l'hypothèque sociale libérale.
Aujourd'hui, vous dites qu'il fait une politique pire que celle de Sarkozy.
Oui, il fait une politique pire que Sarkozy parce que peut-être qu'il fait la politique que Sarkozy aurait rêvé de faire. Il va plus loin sur certains aspects. Et surtout, le problème, c'est que du coup, c'est une politique qui désoriente l'électorat et la population. Sarkozy, au moins, avait annoncé la couleur. Il faisait sa politique. C'était idéologique, libéral, il la faisait. Bon, là, François Hollande nous a promis quand même, non pas forcément complètement l'inverse, sinon on aurait été dans son gouvernement, enfin... Il y a le nombre de reniements depuis le début de son quinquennat sont absolument impressionnants, ce qui fait qu'on ne peut plus croire d'ailleurs ce qu'il nous dit. Hein.
Pour prolonger la question de Lilian Alemania, avant de passer la parole à Roselyne Fèvre, on va faire un peu de politique fiction. 2017, second tour, Hollande-Sarkozy, qu'est-ce que vous faites cette fois-ci ?
Ça ne sera pas Hollande-Sarkozy. Voilà, il n'y aura pas deux libéraux au second tour de cette élection, j'en suis absolument certain. Je pense que il reste quelque chose dans ce pays qui est quand même un fond antilibéral fort. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué l'élection quand même de François Hollande. C'est là-dessus qu'il s'est appuyé dans son discours du Bourget.
Mon ennemi, c'est la finance.
Voilà. Donc il n'y aura pas de libéraux, je n'y crois absolument pas.
Roselyne Febvre de France 24.
Vous dites la politique de l'offre, ça ne marche pas. Mais est-ce que vous pensez que la politique de la demande et ce qui a été fait pendant 30 ans, c'est-à-dire on laisse filer les déficits, ça n'a pas marché non plus depuis 30 ans?
Donc c'est pas ce qui est fait depuis 30 ans. C'est pas du tout ce qui est fait depuis 30 ans. Depuis
30 ans.
Non. Depuis 30 ans.
On laisse filer les déficits. On redistribue ce qu'il n'y a pas.
Non, c'est ce qu'a fait François Mitterrand en 81.
Oui, mais là, on parle
depuis 30 ans. Il a dû s'arrêter très vite.
En 83, il y a eu le fait de ne pas sortir du serpent monétaire européen. Mais on ne va pas remonter aussi loin. Remontons seulement, j'allais dire, à partir de 2002 et plus encore sous Sarkozy. Vous avez une politique qui est menée, qui est celle de penser que le problème dans ce pays, c'est le travail, c'est le coût du travail. Bien. Et donc, on met plein de mesures, notamment, je parlais des exonérations, c'est intéressant tout à l'heure. Hein. Depuis 92 Balladur, ce pays exonère les entreprises sans aucune contrepartie. Vous ne voyez pas, il n'y a pas trace visible, concrète d'un seul emploi créé. Par contre, vous regardez les deux courbes, c'est-à-dire les exonérations et les dividendes, vous apercevez qu'elles se sont croisées et qu'aujourd'hui, les dividendes se sont multipliés par 3 par rapport à il y a 20 ans. Autrement dit, nous, ce que nous disons, c'est que le problème du pays, c'est pas le coût du travail, c'est combien coûte le capital et le pire des capitales, c'est-à-dire celui qui ne s'investit pas. Et je vous rappelle que la dette, les déficits dont vous parlez, la grande majorité de la dette que nous subissons aujourd'hui vient d'une transformation de la dette privée après la crise des subprimes en dette publique. C'est vrai en France, ça a été vrai en Grèce, c'est vrai en Europe, et c'est ça que nous subissons aujourd'hui avec lequel on nous fait un chantage. Et ça, cette politique-là, excusez-moi, mais en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est en train d'emmener l'Europe dans le mur.
François Hollande, depuis quelques jours, on a l'impression qu'il change un petit peu de discours. Alors, il revendique son pacte de responsabilité, sa politique en faveur des entreprises, mais en même temps, il adresse quelques signaux à la gauche, à son électorat de 2012. Par exemple, il met en avant la pénibilité, la réforme de la pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites. C'est quand même une mesure de gauche, ça aussi. La généralisation du tiers payant chez les médecins libéraux, ça aussi, c'est une mesure de gauche.
Ouais, vous avez remarqué que quand vos confrères lui ont posé cette question, il a quand même réfléchi pour trouver les mesures de gauche. Parce qu'il y a un moment donné une arnaque. Moi, je veux bien que la question du compte pénibilité soit une mesure de gauche, mais je vous rappelle simplement que cela permet à des gens de ne pas subir la réforme des retraites qu'il a lui appliquée alors qu'il avait promis qu'il ne toucherait pas la question des retraites. Autrement dit, selon les négociations, parce que c'est même pas certain, quelques parties de la population continueront à pouvoir partir à l'âge des retraites qui était déjà celui sous Sarkozy. Donc on peut pas dire que c'est un progrès. C'est que pour une certaine partie de la population, il n'applique pas la régression qu'il a développée. Donc non, moi le propre d'une politique de gauche, c'est celui justement de permettre de mettre de l'argent là où c'est nécessaire, c'est-à-dire dans les gens qui travaillent, dans les gens qui produisent, de satisfaire à l'intérêt général, au partage des richesses.
Justement, c'est l'entreprise.
Comment ?
C'est l'entreprise qui crée aussi du travail.
Mais les entreprises, madame, les entreprises, c'est pas seulement des chefs d'entreprise. Je l'entends avec vous, d'accord ? Si vous comptez dans les entreprises, les salariés, qui sont quand même la principale production de travail de ce pays. Bien. Mais de mettre de l'argent dans les entreprises sans aucune contrepartie sur des questions écologiques, des critères sociaux, eh bien, le problème, c'est que vous ne contrôlez rien. Bon, et le constat que nous faisons aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles manquent aujourd'hui ? Elles manquent de bons de commande, elles manquent d'emploi, d'activité. C'est pas le fait de pouvoir comme ça, grâce au CICE, enlever un peu d'impôts à la fin de l'année, qui très souvent ne suffit pas à créer des emplois. Et pour les grosses entreprises, repart dans les dividendes, les entreprises du CAC 40 se gavent à ce niveau-là depuis des mois.
Donc non, il y a pas de compétitivité.
Voilà.
Aussi,
donc Hollande, j'ai compris depuis la fin de l'année, blablate à gauche, mais au niveau de ses faits et gestes, et la loi Macron est en train de l'illustrer. Il agit à droite. Et c'est bien le problème de ce président de la République et de cette majorité.
Lilian Alemania.
Justement, sur la loi Macron, un des arguments aujourd'hui, notamment sur le travail du dimanche, c'est OK, on va passer de 5 à 12 dimanches, mais on va donner des droits aux salariés. Des droits qui sont pas obligatoires aujourd'hui. Cette fois-ci, on va demander aux partenaires sociaux de se mettre d'accord et qu'il y ait des garanties, plus de salaire pour les salariés qui travaillent le dimanche, plus de droits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Non, parce que le problème déjà que nous vivons aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment de droits pour les salariés qui sont déjà contraints de travailler le dimanche et de plus en plus. Vous le savez, il y a de plus en plus aujourd'hui d'exceptions.
Oui, mais là, la loi dit qu'il va y avoir des compensations.
Non, il va y avoir des négociations entre des partenaires sociaux dans une situation de chômage que nous connaissons et où, je dirais, les deux côtés du manche ne sont pas égaux. Voilà. Quand vous négociez sur la base de la contrainte du chômage, vous ne négociez pas de manière sereine. Donc nous, on dit on ne touche pas au travail le dimanche. Et on ne touche pas au travail le dimanche. Pourquoi ? Parce que d'abord, économiquement, ça ne reprend pas un emploi. Hein, ce que vous dépensez pas le jeudi, vous le dépenserez pas le jeudi, vous le dépenserez dimanche. Bon, mais en plus de ça, c'est un problème de société. Nous, nous revendiquons une société où les gens ont le droit de s'arrêter tous ensemble le dimanche pour faire autre chose que de travailler.
Mais voilà. Pourquoi vous en décideriez-vous? Et puisque vous dites que c'est une question de liberté,
pourquoi le MEDEF en déciderait?
Et oui, mais pourquoi vous en décideriez aussi également? Est-ce que ceux qui veulent travailler n'ont-ils pas le droit d'avoir accès à ce travail?
Madame, le problème, c'est que quand vous avez 5 millions de chômeurs, quand vous avez une situation dans laquelle il y a de telles contraintes sur l'emploi, on ne peut pas dire que c'est une liberté de choix de travailler le dimanche. Vous savez que le travail dimanche concerne particulièrement les femmes. D'accord. Je ne crois pas que
aujourd'hui on ait des situations. Mais là, c'est en cas d'une généralisation, Monsieur Coquerel.
Oui, mais sauf qu'à mon avis, le jour où on ouvre de 5 à 12, je ne crois pas que par la suite, c'est pas quelque chose qui va se généraliser. Je n'y crois pas du tout. Donc, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, notamment quand on est gauche. Nous revendiquons de ne pas toucher à la question du travail du dimanche. Voilà, qu'on laisse tranquille les gens, qu'on ne pense pas que le consumérisme, le productivisme, ça soit la seule logique de vie. Et encore une fois, économiquement, en plus, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On me parle des touristes chinois. Mais les touristes chinois, ils aiment bien, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Ils aiment bien aussi aller visiter les musées. Les musées sont ouverts le dimanche. Et puis, ils peuvent aller au grand magasin samedi, c'est pas ça qui les empêche.
Éric Coquerel, le coordinateur du Parti de gauche et l'invité de Mardi Politique. La pression monte sur Syriza, le parti que dirige Alexis Tsipras en Grèce, qui pourrait bien remporter les législatives du 25 janvier prochain. Ça vous donne le sourire, Éric Coquerel?
Ça va pas me faire pleurer, ça c'est sûr.
Alors il y a des pressions sur Syriza, pression de l'Allemagne notamment ce week-end. Ça a filtré dans la presse allemande, message d'Angela Merkel en substance. Hein. Si Syriza gagne les élections, la Grèce sort de l'euro. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position qui vient après d'autres?
Bon, déjà, c'est scandaleux, quoi. Je veux dire, il y a le peuple grec est souverain, ils ont juste inventé la démocratie, on va peut-être un peu leur faire confiance dans leur choix.
Vous reprendriez le tweet de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines, il avait écrit en allemand à Angela Merkel, fermez votre gueule, la Grèce est libre.
Je trouve qu'il était précurseur, ouais. On a beaucoup parlé de ce tweet, et il se montre qu'il ne s'est pas trompé, parce que elle ferait mieux de se taire quand même. Mais monsieur Moscovici aussi, rassurez-vous, je ne fais pas seulement un sentiment.
Donc le nouveau commissaire
il ferait bien de se taire, je veux dire, pour européen. Imposer comme ça à un pays qui est un des premiers pays martyr de l'austérité en Europe, d'accord, sur lequel l'Allemagne d'ailleurs a beaucoup tablé pendant très longtemps au niveau de ses exportations, pour y compris faire en sorte que les déficits augmentent, parce que vous savez que ça a été une pompe justement à exportation pour acheter des produits allemands durant toutes les années jusqu'à 2010. Donc je trouve que pour en plus un pays qui n'a pas réglé juste comme ça toutes ses dettes, enfin en tout cas les dettes du nazisme qui n'ont pas été réglées et que d'ailleurs Syriza réclame, je vous le rappelle, je trouve qu'il ferait bien de faire un peu de son. Mais il n'y a pas que l'Allemagne, il y a toute la Troïka qui s'y met. Et ça ne m'étonne pas, parce que la même chose que nous espérons, ils la craignent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les chaînes de leur politique rompent à Athènes, et c'est ce que nous espérons qu'il se passe le 25 janvier.
Mais à vos yeux, une sortie de l'euro, de la Grèce, c'est possible ou c'est juste un fantasme pour faire peur?
Pour l'instant, c'est pas ce que demande Syriza. Pour la bonne raison, c'est qu'en plus de ça, on a des traités qui sont tellement bien faits qu'il n'y a pas de sortie de l'euro possible ou sortie de l'Union européenne. Donc Syriza n'a pas dit qu'elle voulait sortir de l'Union européenne. Syriza demande un moratoire, une renégociation, et en plus propose finalement la même chose que nous disions au moment des élections européennes, c'est-à-dire nous ne faisons pas d'ultimatum, mais nous respecterons le mandat du peuple grec et nous souhaitons que ça puisse provoquer un bouleversement au niveau de l'Union européenne, notamment sur cette fameuse question de la dette, du prêt direct de la Banque centrale européenne, etc. Donc, je ne sais pas, la sortie de l'euro n'est pas d'actualité, sauf s'il y a un chantage effectué.
Mais si Syriza, mettons, gagne, est-ce que vous croyez que son leader ne devra pas ravaler ses promesses et que dans le fond le réalisme va s'imposer? Parce que dans le fond, la Grèce a besoin de cet argent extérieur.
À votre avis, pourquoi Syriza est en tête dans les sondages?
C'est en train de diminuer.
Ça, vous le souhaitez peut-être, mais c'est
non,
pas
non,
ce
non,
qu'on
non,
va.
Si, si.
Non, mais attends. Ok. Allons pas. Pourquoi, depuis quelques années, Syriza monte? C'est parce que les Grecs ne supportent plus une politique absolument insupportable, c'est le cas de le dire.
Bon. J'entends bien.
D'accord. Donc, on n'est pas dans une situation où, quelque part, la Syriza aggraverait le problème. Le problème, il atteint ce pays. Si, c'est parce
que... Je ne porte pas un jugement.
Oui, j'entends bien.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit obligé de ravaler ses promesses par pragmatisme, par réalisme?
Excusez-moi, mais pour l'instant, moi, je suis dans le temps où nous voulons faire en sorte de soutenir Syriza. Là, ce soir, par exemple, il y a une réunion qui est en train de se passer à l'instigation de Syriza France pour avoir des meetings de soutien pour qu'il puisse gagner. Et notamment que... parce qu'on voit bien, il va commencer à y avoir, là, il y a toute une batterie, les sondages baissent. Ah, mais vous allez voir, finalement, ils vont banaliser leur discours. discours, il va rien se faire, etc. On entend tout ça. Même François Hollande y a participé. François Hollande explique qu'on va respecter la souveraineté. Ah bah fort heureusement, je vois pas l'armée française aller envahir la Grèce. Et puis deuxièmement, tout de suite après, il dit mais il faudra qu'ils tiennent leurs engagements. Hein, tout de suite le chantage. Bon bah nous on est là pour faire barrage et pour faire qu'ils gagnent. Et après la deuxième question, on verra. Et je crois que là par contre la Grèce aura besoin de beaucoup de solidarité. De forces comme les nôtres pour effectivement être capable, à partir de cette victoire, qui est un effet contagieux en Europe.
Alors en France, il n'y a pas que le Front de Gauche qui soutient Syriza. Le parti grec a reçu hier un soutien remarqué de la part du Front National. Florian Philippot, le vice-président du FN, était l'invité de BFM Télé.
Je trouve très intéressant la montée dans différents pays européens. En France, c'est le Front National et le Rassemblement Bleu Marine. Ça peut être le UKIP au Royaume-Uni, c'est Podemos en Espagne, c'est Syriza en Grèce. Eh bien, je trouve très heureux que le peuple relève la tête dans chacun des pays de la zone euro. Et si le grand débat en Europe sur l'euro et l'austérité et l'Union européenne doit passer par la victoire de Syriza en Grèce, alors oui, je souhaite vivement la victoire de Syriza en Grèce le 25 janvier prochain. Je vous le dis très clairement.
Voilà, le FN qui souhaite la victoire de Syriza. Question de Lilian Alemania, de Libération.
Éric Coquerel, ça vous fait pas mal au cœur de voir l'extrême droite se revendiquer de deux partis, donc Syriza pour la Grèce, Podemos pour l'Espagne, qui siègent avec vous au Parlement européen, dans le groupe de la GUE auquel Jean-Luc Mélenchon fait partie?
Non, parce que je pense que bientôt, les journalistes que vous êtes allons aller leur poser les vraies questions pour déjouer une récupération politicienne. Quoi. Ça va, c'est bon, quoi. Bon, autant des colonels, ils auraient été des côtés séparés des barreaux de prison entre les gens qui représentaient à l'époque des mouvances type Syriza et les colonels, d'accord. Leur parti, le Laos, qui représente le Laos, dont un des leaders est un grand copain de Jean-Marie Le Pen, a fait partie des gouvernements d'Union nationale qui ont imposé l'austérité. Donc ça n'a aucun rapport à Syriza. Alors, je comprends bien ce qu'essaye de faire le Front National. Il nous fait depuis un an, il reprend comme l'extrême droite des années 30, certains pans de nos discours, de notre programme social. Bon, sauf que, évidemment,
bien sûr, ils viennent sur nos idées.
Oui, oui, mais je vous dis, l'extrême droite dans les années 30 réfléchissait bien, l'a fait, d'accord. Non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que tout ça est fait pour détourner l'attention, parce qu'en même temps, ils divisent le peuple en faisant en sorte, encore ce matin sur le bouquin de Houellebecq, de diffuser la haine, de diffuser la division entre les Français, etc. Et de détourner l'attention sur les vrais problèmes qui sont ceux, justement, de la question du partage des richesses et autres. Donc, le Front National a été de tenter un coup.
Où est le message
de division?
Je vais
vous dire pourquoi ils tentent un coup. C'est qu'ils sont out. D'accord? En Espagne et en Grèce, en août, parce que les gens qui les représentaient gouvernaient dans les années 70 et que les gens n'ont pas envie de recommencer à ça. Donc, ils essayent de ramer, de récupérer. Ils ont beaucoup couru vite. Ils n'y arriveront pas. Là-bas, Tsipras, c'est l'équivalent de Mélenchon au niveau des élections présidentielles. Pas de Marine Le Pen.
Mais pourquoi en France, Marine Le Pen marche mieux que Mélenchon?
Ça, c'est une autre question. Donc on va mettre de côté, je pense que comme vous êtes d'accord avec moi, que le Front National n'a aucun rapport avec Syriza et avec Podemos. Pourquoi pour l'instant ils sont devant nous pour plusieurs raisons. D'abord, nous considérons que le système, de manière générale, a joué un jeu dangereux avec le Front National. On va dire le système politico-médiatique de manière globale, notamment en essayant de jouer un peu avec le vote utile que ça pouvait, qui pouvait permettre à un moment donné un social-démocrate, un autre un candidat de droite de passer, y compris des triangulaires. Je pense qu'il y a eu un jeu dangereux qui a été exercé là-dessus.
Mais il y a Marine Le Pen qui fait 18% à la présidentielle et qui fait 25%
oui, mais,
européenne.
D'accord.
Aux européennes, il n'y a pas de vote utile.
Non, mais 18-25%, c'était à peu près à la mobilisation électorale. Donc il y a eu quelque chose
qui
s'est passé
là-dessus. Pas
il y a quelque chose qui s'est passé là-dessus, non aux européennes, mais aux européennes, comme vous avez regardé comme moi les résultats, en réalité, elle a surassemblé mieux son électorat. Elle n'a pas développé son électorat, elle l'a rassemblé mieux que nous ne l'avons fait. Donc Marine Le Pen, je pense, profite du système, je le crois, parce que c'est un idiot utile, bien pratique, sauf que ce que les gens ne prévoyaient peut-être pas, c'est qu'elle était capable, le chien, à un moment donné, pouvait monter sur la table et dévorer les convives. Ça, c'est possiblement ce qui se passe, ce qui s'est aussi passé, je ne vais pas refaire encore de comparaison, mais dans une autre période de récession des années 30.
Merci Éric Coquerel. On arrive à la fin de la première partie de Mardi Politique. Restez à l'écoute, les infos, et on se retrouve juste après.
Politique en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec Éric Coquerel, le coordinateur du parti de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes ensemble encore pendant 20 minutes avec Roselyne Febvre de France 24, Lilian Alemania de Libération. Dans la première partie, on parlait de la Grèce et de Syriza. On va continuer à en parler. Le parti de la gauche radicale est aux portes du pouvoir en Grèce. Pour prolonger la question de Roselyne Febvre de la première partie, comment vous expliquez que Syriza va sans doute remporter les élections législatives, alors qu'en France, et alors que vous nous dites qu'en France c'est une politique d'austérité, ben le front de gauche il stagne, il est à 6% aux européennes?
Je crois qu'il y a trois choses. La première, fort heureusement, nous ne vivons pas encore une crise d'une aussi grande ampleur, en tout cas une politique d'austérité d'une aussi grande ampleur qu'en Grèce et en Espagne. Première chose. Bon. Deuxième situation, justement, il n'y a pas le système n'est pas celui de la Ve République. Regardez, Syriza peut peut-être gagner les élections avec un peu plus de 30% des voix. Il n'y a pas quand même cette espèce de construction qui favorise très longtemps le bipartisme et qui, dans ces cas-là, si vous mettez une force justement qui sert un peu à justifier le vote utile comme l'extrême droite, peut ralentir la progression d'une force comme le Front de Gauche. Et c'est vrai que la Grèce et l'Espagne ont la chance, enfin c'est pas la chance, c'est historique, de pas avoir l'extrême droite en menace, du moins. Pas en menace pour prendre le pouvoir. Troisième aspect, parce que aussi le Front de Gauche n'a pas su depuis 2 ans fructifier le résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que nous avons aussi nos responsabilités. Et notamment, si on compare avec Syriza, qu'est-ce que c'est que Syriza? C'est un front de plusieurs forces de gauche qui, depuis 2010, fait une politique totale d'indépendance vis-à-vis des forces du système et du PASOK. Bon, nous n'avons pas su le faire au mandat municipal.
Là, vous visez le Parti communiste?
Bah, on a, oui, au mandat municipal, c'est clair que nos camarades communistes ont une stratégie à géométrie variable. J'ai pas envie de remettre 100 balles dans la machine, mais c'est vrai qu'il y a eu ça. Et que ça nous a rendu difficilement lisible. Et quand, quelques semaines après, on s'est présenté aux élections européennes, on n'a pas su, à un moment donné, se redresser. Donc, il faut qu'un front de gauche se remette en marche, pas seul, pour pouvoir faire le principal, c'est-à-dire comment vous êtes capable à nouveau de rassembler le peuple dans ce pays, d'aller le chercher, notamment tous ceux qui s'abstiennent.
Lilian Alemania.
Mais vous avez été clair sur le gouvernement. Les communistes ont été clairs aussi sur le gouvernement. Ils n'ont jamais voté le budget du gouvernement. Ils n'ont jamais accepté un ministère ou laissé croire qu'ils allaient rentrer au gouvernement. Donc cette clarté, vous, au niveau national, vous l'avez.
Non, on n'a pas été capable. Le Front de Gauche, c'est pour l'instant, c'est une alliance. Je le regrette d'ailleurs. C'est une question. Syriza, vous avez remarqué,
il s'est transformé en parti. Vous voudriez, vous, que le Front de Gauche devienne un parti?
En tout cas, réfléchir à un moment donné à un grand parti dans ce pays, je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir. Syriza l'a fait. Je pense que c'est un de ses atouts.
Mais vous étiez sur le modèle de Die Linke aussi.
Oui,
quand
mais
il Die
Linke,
a créé,
justement, c'est un parti. Oui, et Syriza en est un. Et nous, le Front de Gauche, on est resté comme un assemblage de différentes forces qui, du coup, son fonctionnement et sa réussite venaient du fait que, élection après élection, il était capable d'avoir la même stratégie, notamment d'indépendance vis-à-vis du PS. Ça a été le cas des européennes 2009, je ne vais pas vous toutes les faire. Et puis au municipal, crac. Alors qu'on est en plein... On aurait pu utiliser ça de manière parfaite, puisque François Hollande était en train, justement, de renier tous ses engagements. On n'a pas été capable de présenter un choix alternatif qui ne tienne pas compte des alliances avec un des partis du gouvernement et le majeur, c'est-à-dire le Parti Socialiste.
Bon, là, ça va.
Voilà, c'est ce qu'il faut reconstruire maintenant.
Les élections départementales qui s'annoncent au mois de mars, ça va être un petit peu différent, puisque le Parti communiste et Pierre Laurent a pris ses responsabilités, on va dire, il l'a dit, pas d'alliance avec des socialistes qui soutiennent la politique du gouvernement. Ça sera plus lisible à votre avis?
Ah bah déjà oui, ça sera plus lisible.
Non, mais sur le terrain, parce que les communistes qui travaillent en ce moment avec les socialistes dans les conseils départementaux.
Oui, ça sera plus lisible. Mais vous avez raison de dire que d'abord il y a eu tous ces antécédents et que ça doit se digérer sur le terrain. Voilà, nos militants, c'est pas des machines lesquelles vous appuyez. Le Front de Gauche est moins visible qu'il l'a été. Bon, il y a quand même des signes. Moi, je préfère regarder les signes encourageants. On a fait une déclaration ensemble il y a longtemps qu'on n'avait pas fait une avant les vacances qui dit 2 choses. 1, autonomie vis-à-vis du Parti Socialiste, première chose. Et 2, une volonté d'implication citoyenne à travers des assemblées citoyennes de canton, parce que nous sommes persuadés, nous, parti de gauche, que le seul réunion de partis ne pourra pas faire en sorte que en 2017 nous soyons majoritaires. Autrement dit, il faut être capable de fédérer le peuple, de lui donner envie de revenir en politique, et ça passe par exemple ce genre d'initiative. Bon, nous avons écrit ça, maintenant il faut être capable de le décliner sur le terrain avec... Une autre chose qui est une difficulté, mais en même temps un grand atout, c'est qu'il est possible que nous ayons un grand nombre de départements, nous soyons en alliance avec Europe Écologie, avec Nouvelle Donne, et que nous soyons capables, justement d'avoir des résultats
intéressants. Justement, votre grande drague avec les Verts, ça donne quoi? C'en est où?
Bah, qui drague qui d'ailleurs dans l'histoire?
Est-ce que vous avez pécho comme disent les ados? Vous avez pécho les verts?
Oh non, mais c'est pas une question, c'est pas une question de drague.
Bah si un peu.
Mais bon. Pourquoi pas? C'est simplement un constat. Europe Écologie, en tout cas sa majorité, fait ce constat, était dans le gouvernement et a constaté qu'il n'arrivait pas à faire bouger les choses. Et nous, on a décidé qu'on n'allait pas au gouvernement. Donc, il est normal que sur une rupture avec la politique d'austérité de productivisme, on commence à se retrouver. Donc, une question de dragoute, c'est une question d'analyse politique et d'essayer de recréer une majorité dans ce pays. Et tant mieux si on est plusieurs à essayer de le faire.
Mais vous lui faites confiance à Cécile Duflot parce qu'en même temps, elle a été au pouvoir, au gouvernement, pendant 2 ans, alors que le pacte de responsabilité, le CICE, était lancé. Elle n'est partie du gouvernement qu'au moment de l'arrivée d'Emmanuel Valls. Elle a soutenu la politique pendant 2 ans.
Sauf que comme nous ne sommes pas un parti gauchiste, nous ne jugeons pas par rapport à ce qui a été fait, mais ce que les gens font maintenant. Cécile Duflot avait quand même émis certaines critiques. Mais le problème, c'est pas une question de confiance. Je veux dire, on regarde ce qui va se passer. Nous disons que nous sommes peut-être dans la possibilité, là encore, à partir du moment où nous avons la volonté commune de rassembler le peuple. J'insiste là-dessus, parce que sinon, aujourd'hui, vous avez plein de gens, surtout, qui n'ont plus envie d'aller voter, qui rejettent les partis, et ça, il faut y répondre. C'est pas juste l'addition de nos forces qui pourra le faire, mais, en tout cas, il faut le tenter, quoi. Il faut tenter quelque chose dans ce pays. Nous, on n'a pas envie que le Front National gagne les élections, je vous le dis clairement. Donc, comme c'est pas le Parti Socialiste qui pourra faire barrage, il faut tenter une nouvelle alliance, et si Europe Écologie est disposée, eh bien, on l'essaiera cette année.
La traduction politique de ça, c'est quoi? C'est des alliances communaux départementales, c'est des listes communaux régionales, c'est un candidat commun à la présidentielle. Pour le choisir, on fait quoi? On fait des primaires. Il y a tout ça qui vous attend aussi sur 2 ans.
Ouais, on va regarder pas à pas pour l'instant. Donc là, pour l'instant, on a les départementales. Départementales, on a une déclaration nationale du Front de Gauche. C'est déjà bien. C'est un progrès par rapport aux élections passées. Et nous avons, on va dire, la volonté que nous sentons de la part de la direction majorité d'Europe Écologie de favoriser cette fois-ci les accords, vous savez, type Grenoble. Ça nous a quand même souri, on a gagné une ville avec eux. Type Grenoble, et d'essayer de les favoriser dans les départements. Et ben, le soir du premier tour, on espère qu'on aura un certain nombre de ces endroits, si possible, sous une appellation nationale commune, où nous pourrons dire, vous voyez, comme c'est sûr que le Front National fera un bon score, on l'annonce, c'est clair, ils vont mobiliser leur électorat, l'abstention sera forte, pouvoir dire, vous voyez, il se passe autre chose dans ce pays-là. Ça commence. Et après, essayer de faire fructifier ça au régional, si ça marche ici.
Et vous pensez que des socialistes frondeurs peuvent vous rejoindre ou, comme le reprochait Jean-Luc Mélenchon il y a quelques semaines, ils restent au milieu du guet? Vous avez des contacts avec eux?
Ouais, on a quelques contacts. Il y en a certains qui ont bougé plus que d'autres. Limo Angnok, par exemple, était dans nos manifestations du 15 novembre des socialistes affligés. Maintenant, on regrette un peu. Enfin, il nous semble, je vais être franc, on va voir ce qu'ils font au niveau de la loi Macron. Si certains font le pas jusqu'à voter contre, par exemple comme Cécile Duflot qui a annoncé qu'elle allait le faire. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'ils ont les yeux tournés vers leur congrès et que jusqu'à leur congrès, ils vont être pris par leurs affaires internes. Bon, je pense que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. Je pense qu'il ferait mieux de servir, il servirait mieux à la cause, comme on dit, en rejoignant des alliances comme telles que les nôtres. Mais on va pas calquer nos tris sur le leur, quoi. Voilà, ça serait une profonde erreur. Et notamment, par exemple, au départemental, on sera pas ensemble. Bon, on verra bien ce qu'ils feront dans l'avenir.
Roselyne Fèvre.
Est-ce que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon n'est pas en cause, peut-être, dans l'échec, je dirais, à la fois électoralement, à la fois dans la séduction de ce que pourrait représenter l'ultra-gauche en France, à l'image de Syriza? Est-ce que la fâcherie aussi avec les communistes, hein, enfin, une mauvaise entente, est-ce que vous ne considérez pas que parfois Jean-Luc Mélenchon est peut-être allé trop loin dans son hyper-personnalisation?
Non, il n'y a pas de fâcherie avec les communistes ou avec Pierre Laurent, ça, je refuse ça. Il y a deux stratégies, c'est la politique, c'est pas la même chose. Ça, c'est les médias qui a traduit ça à un moment donné. Bon, Jean-Luc, il a une personnalité, forte, il s'exprime, et fort heureusement, parce que je pense que c'est ça qui explique en partie le fait d'avoir justement pu à un moment donné fédérer ce que nous représentions et avoir un gros score au présidentiel. Et moi, si je regarde aujourd'hui les sondages, bon, ça ne préjuge pas de l'avenir. Enfin, les sondages aujourd'hui continuent à tester comme celui qui reste quand même le porte-parole naturel de notre mouvance, c'est Jean-Luc Mélenchon, et vous remarquerez qu'il est toujours à 10-11%. Donc je pense que ce qui s'est passé pour 2 ans, depuis 2 ans, le moins qu'on puisse dire, ne vient pas de la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, ni de la nôtre. Bon. Et que, moi, il me semble que... un intellectuel en politique et qui en plus continue à se battre sur des vraies valeurs de gauche, c'est plutôt un acquis dans la période, et je crois que je ne rejoindrai pas sur les problèmes qui pourraient se poser. Non, je ne vois pas ça comme non, ça.
Mais vous ne lui avez jamais dit « calme-toi un petit peu, apparaît moins énervé » parce que
non, au contraire, on lui dit d'y aller un peu plus fort.
Ah, c'est votre faute alors.
Non, mais... Enfin, écoutez,
les sondages qualitatifs, notamment l'analyse, ça, c'est-à-dire que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon effraie une partie de l'électorat.
On a une période dans laquelle il y a 9 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté. Le chômage explose dans ce pays, d'accord ? Il y a la crise partout, il y a des gens qui dorment dehors partout. On a des SDF qui sont morts à la fin de l'année, plus de 400 l'année dernière, et vous voudriez qu'on soit calme ? Qu'on regarde ça de manière tranquille.
C'est en hurlant qu'on arrange les choses.
On hurle pas. Ça, c'est les termes que vous donnez de la façon dont nous parlons. Bon, en plus de moi,
d'une interview avec Jean-Luc Mélenchon.
Est-ce que au moins, il a du caractère, il faut appliquer
oui,
je remarque d'ailleurs une petite chose, c'est que François Hollande, là, par exemple, j'entendais François Hollande, quand même, qui commençait à parler du déclin, qui reprenait nos mots sur attention au déclinisme, la France est un grand pays, etc., qui explique qu'il va être combatif et déterminé. Bon, évidemment, je pense pas qu'il allait dire qu'il est mou et résigné. Bah, manifestement, il pense lui aussi qu'il faut du caractère. Sauf que je pense qu'il en a pas assez pour la période.
Mais sauf que d'avoir choisi cette stratégie du conflit, mettre du conflit partout, être cru et dru, pendant la campagne présidentielle, c'est plus justement le Mélenchon intellectuel, pédago, qui expliquait, qui donnait,
vous savez très bien,
à voir son programme. Qui aussi a plu pendant cette campagne.
Lilian Almenia, vous avez écrit un livre sur lui, donc vous le connaissez. Mmh. Vous savez très bien que ces deux caractéristiques sont dans la même personne. Bon, à un moment donné, selon le temps, on fait de la politique aussi, il y a des choses, des messages que l'on passe d'une certaine manière. Vous remarquerez par exemple que depuis quelques mois, l'aspect justement éducation populaire, l'aspect compréhensible. Mais par exemple... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas les seuls. Vous savez que le 17 janvier, on fait le deuxième forum sur le développement de l'activité maritime, parce qu'on est un des seuls partis qui s'intéressons au fait que c'est très certainement un des grands espoirs pour la France en termes de relance de l'activité écologiquement soutenable. On va voir le nombre de journalistes qui s'y intéressent sur ce que nous disons. Donc, moi, j'ai pas cette perception, mais peut-être aussi parce que je le connais mieux que vous et que je le regarde peut-être pas avec les mêmes yeux. Voilà, on va dire.
Éric Coquerel, le patron du parti de gauche, est l'invité de Mardi Politique. Alors, il ne sort que demain, mais il fait déjà polémique. C'est le nouveau roman de Michel Houellebecq, Soumission. Il imagine l'élection en France en 2022 d'un président musulman, l'instauration de la charia, un livre qui fait écho notamment à la thèse développée en ce moment par l'extrême droite, le grand remplacement de la population, on va dire, aux racines chrétiennes par une population de confession musulmane. Est-ce que ce livre de Michel Houellebecq, on doit juste le considérer comme un objet littéraire, ou alors est-ce que c'est un symptôme politique?
Je l'ai pas lu encore.
Bon, il sort demain.
J'ai entendu. Et puis en plus, j'ai quand même...
Et il a donné pas mal d'interviews déjà.
Ouais. Voilà. Non, c'est certainement un symptôme politique. Michel Houellebecq a beaucoup, beaucoup de talent. Mais je trouvais aussi que Louis-Ferdinand Céline avait beaucoup, beaucoup de talent. Je lisais ses livres et n'empêche, il y a certains fantasmes comme ça, dans une période qui entraîné en des choses encore plus dangereuses.
On comparait un peu à...
Non, je sais pas, je n'ai pas lu le livre. Je ne veux pas aller jusqu'à là. Mais manifestement, quand vous commencez à traduire une possible anticipation romanesque, une situation qui est un pur fantasme.
Lui-même le reconnaît.
Mais d'ailleurs. Alors pourquoi Michel Houellebecq joue ce jeu-là, quoi? Parce que le problème, c'est que moi, je ne sais pas ce qu'il dit, j'ai pas lu tout ce qu'il dit, mais le problème, c'est que par contre, il y a des gens dans un degré en dessous, vous voyez, genre Zemmour, qui eux, ils vont avec une vraie volonté communautariste, ségrégationniste, et il faut le dire d'extrême droite. Moi, je pense que c'est un intellectuel organique du Front National, personnellement.
Il y a une zémourisation de la société française.
J'espère pas, n'allons pas jusqu'à là. Il y a une zémourisation de quelques élites et de une partie de la population. Mais par contre, là où c'est dangereux, c'est que nous vivons un moment où on voit bien que le Front National est malheureusement relayé par une partie de la caste politique, est en train de mettre dans la société des relents de division, des choses, de monter les gens les uns contre les autres au lieu qu'ils se préoccupent de leur problème commun qui est celui de l'emploi, qui est celui, je le disais tout à l'heure, de la politique économique libérale menée. Bon. Et ça, en même temps, il y a des montées de communautarisme qui existent. Ça, c'est vrai. On les voit. Je veux dire, on les constate. Bon. Et je trouve que alimenter ça par une espèce de peur fantasmique où vous avez l'impression que non seulement vous expliquez que toutes les populations, parce que c'est ça dont il s'agit, d'origine d'Afrique du Nord sont musulmans, et que tous les musulmans sont intégristes, et que donc on aurait un président, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui ne repose sur rien. Je vous rappelle que ça ne repose sur rien. Qu'il y ait des intégristes dans ce pays, et d'ailleurs ils ne sont pas seulement musulmans, je tiens à le dire, parce que quand Ménard ouvre une crèche dans sa mairie, le moins qu'on puisse dire, c'est que par rapport à la laïcité, il fait des choses aussi graves que certains intégristes musulmans. Il n'y a pas seulement chez les musulmans que ça se passe. Bon, quand vous avez, il y a des intégristes dans ce pays, c'est vrai, mais c'est loin, et on le sait bien, de représenter la majorité des musulmans. Donc c'est alimenter des peurs de fantasmes, et je trouve que c'est extrêmement grave dans la situation. Bon, encore une fois, j'ai pas lu son bouquin, donc je ne veux pas trop. Mais je vois que le Front National tout de suite a pris le relais aujourd'hui en parlant d'anticipation. Donc ça montre bien aussi. Qui est le Front National et qu'il est évidemment à l'opposé des valeurs de Syriza ou des nôtres.
Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, même pas en 2022, en 2017, là, c'est une éventualité à laquelle vous réfléchissez ?
Malheureusement, vous êtes obligé de regarder le constat politique, et c'est possible. Et la situation nouvelle...
Et une victoire du Front National.
La situation nouvelle, c'est qu'on ne peut pas totalement exclure le fait qu'à un moment donné... si on continue à la laisser faire et s'il n'y a pas une force alternative qui défend d'autres valeurs mais qui combatte le système qui se met en face, elle puisse aller jusqu'à une victoire. Mais on fera en sorte que ça ne soit pas le cas.
Éric Coquerel, je voudrais qu'on parle en quelques mots de l'Ukraine. Dimanche prochain, Astana au Kazakhstan, une possible rencontre à quatre, comme il y en avait eu une le 6 juin dernier en Normandie, entre Vladimir Poutine, le président russe, Petro Poroshenko, le président ukrainien, François Hollande et Angela Merkel. On va écouter ce que disait François Hollande hier sur France Inter.
Ce que veut Monsieur Poutine, c'est que l'Ukraine ne bascule pas dans le camp de l'OTAN. Ce que nous voulons de M. Poutine, c'est qu'il respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il faut parler à Poutine, je l'ai fait. Mais en même temps, il faut parler clairement. Il faut lui dire ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Et lui-même doit savoir s'arrêter. Et il le paye suffisamment cher. Si la Russie a une crise, ce n'est pas forcément bon non plus pour l'Europe. Donc je ne suis pas pour la politique du pire. Et je pense que les sanctions, maintenant, doivent s'arrêter.
S'arrêter, ou en tout cas être allégé en cas de progrès, dit François Hollande. Éric Coquerel, question sur l'Ukraine de Lilian Alemania de Libération.
Vous devriez être d'accord pour une fois. Il faut lever les sanctions avec la Russie. On a entendu Jean-Luc Mélenchon sur cette question, notamment sur la Crimée. Quelle est vous votre position sur Poutine aujourd'hui ?
Position, c'est le fait que la Russie, c'est un allié naturel de la France. Voilà.
Y compris quand ils envahissent un pays voisin.
Et quel pays ?
La Russie. L'Ukraine.
Quel pays ont-ils envahi ? Ils sont en Ukraine aujourd'hui, les
troupes
russes.
La Crimée. Ils ont quand même envahi la Crimée.
Aujourd'hui, la Crimée n'est pas envahie par la Russie. La Russie ne revendique pas d'envahir la Crimée. D'accord ? Donc, on a une situation aujourd'hui... Non, mais je reviens sur l'interview de François Hollande, parce que tout est dans la question. François Hollande dit, tout d'un coup, réalise, j'entends, là, il dit... Il faut en gros rassurer sur le fait que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN, et c'est compréhensible que le président Poutine se préoccupe de ce problème. Mais heureusement qu'il le comprend maintenant, parce que tout le problème vient de là. Tout le problème, c'est qu'au moment où on a soutenu la question de l'Ukraine, l'intégration de l'Union européenne, le pendant de l'intégration de l'Union européenne, c'était l'intégration à l'OTAN, et que donc on faisait quelque chose à la frontière russe qui n'était pas possible pour la Russie. Je veux dire, d'un point de vue géostratégique, je ne parle pas là de politique idéale, je vous dis géostratégiquement, c'était impossible. Donc François Hollande a commis cette erreur. Il n'a pas été le seul, mais il l'a commis. Si déjà il se rend compte de cette erreur, après qu'il continue à jouer les deux leçons quand je l'ai
fait, c'est autre chose. Mais ça donne le droit à la Russie d'envoyer des soldats qui ne sont pas matriculés dans un pays voisin.
Je vous rappelle aussi.
Et d'organiser un référendum avec une présence étrangère.
Je vous rappelle aussi que les minorités ukrainiennes russes aujourd'hui, y compris encore début décembre, au niveau par exemple des services publics, au niveau des politiques qui sont appliquées, etc., subissent une politique qui est absolument anormale de la part de l'État ukrainien. Bon. Que la Russie défende ses intérêts. Moi, je ne vous dis pas si c'est normal ou pas, mais c'était quelque chose de prévisible. Et donc, la situation est extrêmement grave en Ukraine, parce que, d'abord, c'est un endroit géostratégique chaud. Il y a des centrales nucléaires, et on sait dans quel état. Donc, je préfère entendre François Hollande se rendre compte qu'il ne faut pas que ce pays rentre dans l'OTAN et qu'il faut discuter et négocier avec la Russie.
Merci, Éric Coquerel. On arrive déjà à la fin de Mardi Politique. Merci à nos partenaires de France 24 et Libération, Roselyne Fèvre et Lilian Alemania. Cette émission, elle était réalisée par Mathias Golchani. Et la semaine prochaine, Mardi Politique reçoit Nicolas Hulot. Très bonne soirée à tous.